Du genre dans l'histoire, saison 2, épisode 3, Femmes et genre dans les conflits du XXe siècle.
Bonjour à toutes et à tous. Nous nous sommes déjà intéressés dans ce podcast à la présence des femmes dans la guerre. Mais nous avions envie de revenir sur les guerres du XXe siècle. Non pas que ce siècle ait connu plus de guerres que les précédents, mais les conflits du XXe siècle ont atteint par différents aspects une dimension jusque-là inconnue. Par ailleurs, dans les programmes scolaires du secondaire, les guerres du XXe siècle occupent une place majeure et souvent un prétexte pour ne pas donner de place aux femmes, les guerres étant encore perçues comme des événements historiques typiquement masculins, ou au mieux neutres. Pourtant, depuis 40 ans, les recherches sur la place des femmes dans la guerre et le genre des guerres du XXe siècle ont pris une ampleur considérable. Les historiennes et les historiens du monde, après s'être interrogés sur les rôles occupés par les femmes dans les conflits, ont mesuré les effets de la guerre sur les sociétés, les relations hommes-femmes et les rôles de genre. Aujourd'hui, les travaux portent sur les sexualités et l'intimité des populations qui subissent la guerre. Dans ces réflexions, hommes et femmes ont toute leur place. Pour faire avec nous un bilan des avancées de l'histoire des femmes et du genre dans les conflits du XXe siècle et réfléchir à la façon dont on peut introduire ces recherches dans les cours du secondaire, nous avons invité Françoise Thébault. Historienne des femmes et du genre, historienne de la maternité et de l'engagement politique des femmes, elle s'est aussi beaucoup consacrée à la question de la place des femmes dans les conflits du XXe siècle et au genre de la guerre. Elle a été la première présidente de Mémosine de 2000 à 2008 et elle a été jusqu'en 2018 co-directrice de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, qu'elle a cofondée en 1995. Bonjour Françoise, peux-tu te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Bonjour à toutes et à tous, et d'abord grand merci à Mémosine, dont je suis effectivement cofondatrice, de ses nombreuses activités actuelles qui font véritablement vivre l'histoire des femmes et du genre. Et merci de cet enregistrement. Alors, me présenter en quelques mots, je dirais d'abord que j'appartiens à la première génération d'historiennes, invitées dans les années 70 à explorer ce nouveau domaine de recherche qu'était alors l'histoire des femmes. Nos directrices de recherche étaient notamment Michel Perrault à l'Université Paris 7 et Yvonne Knibiller à l'Université de Provence. Mes thèmes de recherche depuis près de 50 ans sont divers. La guerre, bien sûr, mais aussi, cela a été dit, la maternité, les féminismes, le genre de la citoyenneté sociale et politique, ou très récemment, celui des organisations internationales. J'ai eu la chance de participer à l'aventure intellectuelle de l'histoire des femmes en Occident, 3000 pages en 5 volumes, publiées en 1991-1992, synthèse des connaissances d'une vingtaine d'années de travaux. Michel Perrault et Georges Duby m'ont confié la direction du volume XXe siècle, alors que j'étais la plus jeune de l'équipe. Cette série, largement diffusée, a fait franchir à l'histoire des femmes, jusque-là regardée avec beaucoup de méfiance par nombre d'universitaires, qui la considéraient comme ascientifique, voire militante, un premier seuil de légitimité intellectuelle. André Loez, qui produit le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, a récemment consacré 3 épisodes à cette série d'ouvrages. Dans la foulée de cette parution, j'ai tenté d'asseoir la légitimité intellectuelle de l'histoire des femmes et de contribuer à son institutionnalisation. Travail de longue haleine que j'envisageais ainsi. Il fallait forcer les portes de la légitimité académique pour que l'histoire des femmes fasse partie de la culture commune et soit transmise dans l'enseignement. D'abord, en explicitant pour nos collègues le projet de l'histoire des femmes, ses débats, ses concepts, ses productions. C'est l'ouvrage qui a été réédité et complété en 2007 sous le titre « Écrire l'histoire des femmes et du genre ». Puis en créant en 1995 un espace de publication, la revue qui a déjà été citée, Clio, dont le premier sous-titre était alors « Histoire, femmes et société ». Puis en 2000, la création d'une association professionnelle, Mnemosine, dont le sous-titre est « Pour le développement de l'histoire des femmes et du genre ». Je suis un peu longue, mais sur le thème d'aujourd'hui, donc la guerre, je précise tout de même que mes travaux portent sur le premier conflit mondial et je privilégierai des exemples sur ce conflit, mais j'ai aussi lu mes collègues et défends une approche comparée dans le temps et l'espace, toujours stimulante. Je dirais finalement que j'ai été beaucoup sollicitée pendant le centenaire de 14-18 pour des conférences sur les Françaises dans la guerre ou Françaises et Européennes dans la guerre. J'y abordais 4 points que je vous soumets, car cela orientera un petit peu mes réponses. la mobilisation des femmes et des hommes, les épreuves subies par les hommes et par les femmes, les engagements des femmes, nationalisme ou pacifisme, et enfin, dernier point, les effets de la guerre sur la place des femmes dans la société et les rapports de genre. Ce qui veut dire, question qui a été beaucoup débattue, on y reviendra, la guerre a-t-elle été émancipatrice ou non pour les femmes ?
Merci Françoise pour cette présentation, plus complète que celle que j'avais faite. Alors la première question qu'on va se poser et qui me semble être importante pour pouvoir s'emparer de l'histoire des femmes dans la guerre et du genre de la guerre, c'est celle des sources. Quelles sont les sources privilégiées de cette histoire des femmes et du genre dans la guerre ?
Alors nous avons d'abord utilisé les sources classiques de l'historien, celles produites par les ministères, les administrations, les collectivités, dont les archives policières ou les rapports des préfets par exemple. Nous avons aussi utilisé la presse, qui est en temps de guerre souvent surveillée et censurée, les archives judiciaires également, les essais et la littérature. Ces sources parlent des femmes. Mais nous avons, dès le début, et c'est important, et de plus en plus, cherché la parole des femmes pendant les périodes de guerre pour comprendre leur vécu et leur rapport au conflit. Nous avons cherché cette parole dans la presse féminine, mais aussi ailleurs. J'aime répéter que l'histoire des femmes a promu l'usage en histoire de ce qu'on appelle les archives de soi ou les égotextes, les correspondances, les carnets de guerre, les mémoires, les autobiographies, qui sont maintenant considérées par toute la profession historienne comme des sources exceptionnelles pour écrire à la fois une histoire sociale, une histoire sensible, au ras des acteurs et des actrices. L'histoire des femmes a également promu le recueil de témoignages oraux, ce qu'on appelle parfois ou souvent l'histoire orale. Elle était encore possible dans les années 70 pour les contemporains de la Grande Guerre. J'avais ainsi interviewé quelques femmes qui avaient travaillé dans les usines de guerre. Elles disaient notamment leur sentiment d'injustice devant l'inégalité des salaires hommes-femmes à travail égal, donc à travail égal, salaire inégal. Elles disaient également leur opposition aux contremaîtres, parfois harceleurs, leur peur de la main-d'œuvre étrangère et coloniale, chinois, indochinois, que les autorités avaient fait venir. J'ai aussi découvert, autre exemple, à l'époque, un texte bouleversant d'une écrivaine qu'on ne lit plus du tout aujourd'hui, Jeanne Catulle Mendès, et ce texte s'intitule « Prière sur l'enfant mort ». Il dit la douleur d'une mère devant la disparition de son jeune fils, engagé volontaire à 17 ans. Il dit l'attente angoissée des nouvelles et d'une lettre qui ne vient pas, la tension entre amour maternel et patriotisme. Là encore, l'histoire des femmes a précédé les travaux sur le deuil et la culture de guerre des historiens de l'Historial de Péronne, notamment Stéphane-Édouard Rousseau ou Annette Becker.
Alors justement, on va un petit peu revenir dans le passé, dans cette historiographie de la guerre et des femmes dans la guerre. L'historiographie des années 80-90 a opposé les vécus de la guerre sur le front et les vécus à l'arrière, et donc un vécu masculin et un vécu féminin. À l'époque, cette approche sociale était vraiment pionnière, et c'est vrai qu'elle a permis d'éclairer vraiment l'importance de l'arrière dans la gestion du conflit. Donc ça me permet de vous demander quelle a été l'expérience vécue par les femmes à l'arrière durant, si on peut généraliser, durant les deux grands conflits mondiaux.
Oui, donc l'histoire des femmes en guerre, me semble-t-il, comprend deux aspects. On peut s'intéresser à la fois à la guerre des femmes, c'est-à-dire leur mode divers de participation aux divers conflits, et on peut s'intéresser également à ce que veut dire être femme dans un pays en guerre. Cette histoire des femmes en guerre s'écrit parallèlement et contribue fortement à cette approche sociale de la guerre dont vous venez de parler, approche sociale de la guerre qui ne s'intéresse plus seulement aux faits militaires ou diplomatiques, mais aussi aux sociétés en guerre et donc à l'arrière. Mais parlons d'abord de l'économie de guerre. Puisque les hommes sont mobilisés pour combattre, l'économie de guerre a besoin du travail des femmes au champ et à l'usine. C'est le cas dans tous les pays belligérants pendant la Grande Guerre, avec une chronologie particulière. Et il faut souligner qu'au début du conflit, comme les autorités pensent que la guerre sera courte, il n'y a pas de mobilisation des femmes, sauf dans les œuvres de guerre. Il y a plutôt une mise au chômage des ouvrières, puisque les entreprises ferment. Cette mobilisation des femmes commence plus tardivement, à partir de 1915, avec des différences nationales. En France, où les femmes constituaient plus d'un tiers de la population active avant 14, le recrutement est empirique et la croissance du travail féminin dans l'industrie et le commerce n'est que de plus 20% environ à son maximum fin 1917. En Allemagne, le recrutement est organisé de façon centralisée, mais beaucoup de femmes ne se plient pas à ce recrutement parce qu'elles sont occupées à chercher de la nourriture dans un pays soumis au blocus maritime et où les pénuries sont dramatiques. On y reviendra plus tard sur ces conditions de vie. Au Royaume-Uni, et là c'est un autre exemple intéressant, où peu de femmes continuent à travailler après le mariage, la croissance du travail féminin est, pendant la Première Guerre mondiale, de plus 50%, avec la formation de grands arsenaux militaires et un contrôle des syndicats pour que le recrutement de ces femmes soit temporaire, le temps de la guerre. Mais ce faisant, et c'est important, les femmes accèdent à de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs de l'économie et sont beaucoup plus visibles dans l'espace public. Femmes factrices, serveuses de café, livreuses, conductrices de tramway, employées d'administration et de banque. Tout poste majoritairement occupé par des hommes avant 14. Fait majeur, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la Grande Guerre accélère une féminisation du secteur tertiaire, tout juste amorcée avant 14. Mais la figure la plus nouvelle de l'époque et qui fait parler d'elle, c'est l'ouvrière de guerre, qu'on appelle en France la munitionnette. Elles sont environ 400 000, soit un quart de la main-d'œuvre, au plus fort de l'emploi féminin fin 17, début 18. Employées, comme le nom l'indique, essentiellement aux travaux mécaniques en série, là où leur rendement est le maximum, à la fabrication de munitions. Ces femmes, entrées dans le monde d'hommes qu'étaient la métallurgie et la chimie, sont à la fois admirées et dénigrées par les contemporains, dont certains contemporains craignent la masculinisation des femmes, et cela leur fait très très peur. La mobilisation massive des femmes au travail est effective également aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, pendant la Seconde Guerre mondiale. Moins en France, où Pétain, vous le savez, a signé un armistice et où le régime est hostile au travail des femmes mariées. Il est toutefois contraint de composer avec cette idéologie, car la main-d'œuvre masculine manque, 1,5 million de prisonniers français en Allemagne, à la suite de la défaite de 1940. Alors vous avez évoqué tout à l'heure l'opposition d'un vécu masculin au front et d'un vécu féminin à l'arrière. On peut effectivement souligner qu'hommes et femmes vivent pendant les guerres des expériences profondément différentes qui ont conduit parfois à des incompréhensions dans les familles et à des séparations de couples après-guerre. L'horreur et la perception des combats sont difficilement transmissibles. Mais l'historiographie a souligné également que les deux univers restent en contact, par la correspondance notamment, et par les permissions octroyées aux soldats. Dans les lettres, beaucoup de correspondances de guerre ont été conservées ou recherchées, notamment pour la Grande Guerre. Les soldats disent leur volonté de rester père et époux, tout en étant combattants. Les femmes de leur côté, notamment les paysannes, les commerçantes et les artisanes, décrivent à leur mari leur travail et demandent souvent des conseils.
Alors, quelques petites précisions sur la participation des femmes à la vie professionnelle. On a parlé des munitionnettes, et c'est vrai que les munitionnettes, c'est devenu une sorte de figure emblématique de la participation des femmes à l'industrie à cette époque. Mais finalement, on parle beaucoup moins des paysannes, qui étaient bien plus nombreuses à être mobilisées dans les pays européens.
Le cas des paysannes est particulier. Non, on pourrait dire que c'est plutôt les premières femmes mobilisées, parce qu'elles remplacent immédiatement les hommes envoyés au front. Et vous savez que pendant la Grande Guerre, les paysans ont été la, on pourrait dire, le groupe social le plus mobilisé.
Monsieur le préfet, permettez-nous, s'il se peut, de vous exposer nos besoins. Nous trouvons dans l'impossibilité absolue de pouvoir cette année rentrer nos récoltes, faute de bras d'homme, nous venons faire appel à votre bienveillance afin d'interpréter pour nous auprès de l'autorité militaire. Ce n'est pas nous, pauvres femmes, qui faucherons, car nos forces, déjà si épuisées par le surmenage et le chagrin continuel depuis 2 ans, ne le permettent pas. Veuillez nous excuser, monsieur le préfet, de la liberté que nous prenons à votre égard. Nous espérons fermement que vous aurez égard à notre situation. Lettre de paysanne de Chantelouve au préfet de l'Isère, 29 mai 1916.
Vous venez de lire la lettre de paysanne de Chantelouve au préfet de l'Isère. C'est une lettre extrêmement émouvante. Oui, cette lettre dit à la fois le chagrin, la peine et le dur labeur de ces paysannes de Loisans, région de montagne. C'est intéressant, cette lettre, ça nous permet d'entrer dans le vécu de la guerre et de souligner que si les guerres offrent parfois des opportunités professionnelles aux femmes, elles sont avant tout, et j'y insiste de plus en plus, des moments d'épreuve pour les femmes. Sauf peut-être pour les jeunes filles qui, échappant à l'autorité paternelle, ont parfois vécu une période différente et peut-être favorable à leurs yeux. Épreuves de guerre, il y en a eu de multiples pendant tous les conflits, la première comme la seconde guerre mondiale, comme pendant les guerres coloniales. Mais il faut souligner d'emblée qu'il y a bien sûr des différences importantes selon les catégories sociales, le lieu de résidence, qu'on habite à la ville ou à la campagne, en zone occupée ou non, et selon aussi le pays. Première épreuve que je souligne toujours, le surmenage au travail. Et c'est cela que disent ces paysannes de Chantelouve. Toutes les paysannes de France, d'Allemagne notamment, remplacent à la fois les hommes mobilisés et les bêtes réquisitionnées. Surmenage également dans le monde ouvrier. Les ouvrières font pendant les guerres de longues et pénibles journées ou nuits de travail, puisque les législations sociales sont très souvent suspendues pendant les périodes de conflit. Surmenage, mais aussi difficultés du quotidien. Difficultés du quotidien pour élever ses enfants seuls et nourrir la famille. Alors les pénuries alimentaires, et c'est très souvent intéressant parce que l'opinion publique et peut-être même les élèves ont très souvent l'image de la Seconde Guerre mondiale et des queues devant les magasins. Pendant la Première Guerre mondiale, la situation alimentaire est extrêmement contrastée entre les États belligérants. En France, sauf en zone occupée par les Allemands, les pénuries alimentaires sont relativement faible entre 1914 et 1918. Et c'est la même chose au Royaume-Uni, où des travaux ont même montré que la situation sanitaire des populations, mieux surveillée, s'était améliorée pendant le premier conflit mondial. Par contre, la situation est tout à fait différente dans les empires centraux, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, soumis au blocus, et où sévit de très fortes pénuries alimentaires, voire la faim. Pour l'Allemagne, des historiens ont évalué la surmortalité par sous-nutrition à 700 000 personnes, ce qui est relativement important. La situation est différente pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, les Français ont effectivement faim, subissent des pénuries, sont soumis à un rationnement draconien, parce que les Allemands, qui occupent partiellement puis totalement le pays, le pillent et réclament de nombreuses denrées alimentaires. Surmenage, difficultés du quotidien, autre épreuve qu'il faut ajouter, la solitude affective qui est plus largement partagée entre les classes sociales. Solitude affective comblée seulement en partie par la correspondance et les permissions, avec lancinante et quotidienne la peur de la disparition de l'être cher. La lettre, c'est fondamental. On a beaucoup, pendant la Première Guerre mondiale, de dessins dans les journaux ou de remarques des contemporains sur l'importance du courrier. Importance du courrier à la fois pour les soldats, puisque ça maintient le contact avec l'arrière. Ça permet d'imaginer l'avenir, une fin de guerre et le retour à une vie peut-être normale. Et pour l'arrière, la lettre dit qu'au moment où elle a été écrite, son époux, son fils est toujours en vie.
Oui, il y a même des femmes qui ont appris à écrire à cause du conflit pour pouvoir écrire à leur conjoint.
Oui, en même temps, l'école de la Troisième République avait quand même largement diffusé l'alphabétisation. Bon, beaucoup de correspondances sont effectivement avec des fautes de style, d'orthographe, mais on en a aussi chez les plus lettrés des lettres qui ont un aspect très, très littéraire. Tout à l'heure, on lira un extrait de Maurice Drance. Il écrit de façon extrêmement lettrée. Il est fils de commerçant parisien, mais il a reçu une bonne éducation. cette lettre qui n'arrive pas, je crois que l'épreuve principale des guerres pour les femmes, c'est le deuil, c'est l'épreuve la plus douloureuse. Les élèves en général, on leur donne les données chiffrées de disparition, 1,4 million de soldats morts en France pendant la Grande Guerre, pour 40 millions d'habitants à l'époque. C'est une véritable saignée démographique et derrière, il faut imaginer des destins brisés. Des femmes, des fiancées qui perdent leur futur mari, des mères qui perdent leur fils, des familles véritablement amputées par la mort de masse.
Oui, il y a certains monuments aux morts, je pense à celui de l'Odève, qui sont magnifiques et qui évoquent précisément ce deuil des familles. On voit une famille pleurer devant le corps du soldat mort. C'est vrai que c'est difficile, au-delà des chiffres, de faire percevoir la difficulté et la douleur de ces familles face au deuil.
Oui, elle a parfois été dite de façon littéraire dans le texte que je citais tout à l'heure, de façon parfois plus secrète dans les familles populaires. Mais ces monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, avec ces listes interminables de décès où on retrouve des noms, on imagine que ce sont des frères ou des cousins, c'est absolument effrayant. Et ce besoin collectif de couvrir la France de monuments aux morts après la Première Guerre mondiale dit bien ce traumatisme collectif du deuil.
On insiste dans le monument aux morts plus sur la dimension patriotique du sacrifice du soldat que sur la douleur de la famille, il me semble.
Oui, bien sûr. Les styles des monuments aux morts dépendent des choix politiques des communes. C'est très intéressant aussi de se plonger dans les délibérations communales pour les monuments aux morts. Qu'est-ce qu'on choisit comme motif? Un motif patriotique où on met en avant parfois même un certain pacifisme dans certains monuments aux morts. Bon, je connais bien celui de Saint-Paul de Léon, dont est originaire ma famille paternelle. Là, on voit les quatre femmes, c'est-à-dire la mère, la fiancée, l'épouse et la veuve, qui soutiennent le soldat mort. Donc la Bretagne a été une région extrêmement touchée par la Grande Guerre. Là aussi, il faut faire réfléchir toujours en comparaison des deux conflits mondiaux. Alors que la Seconde Guerre mondiale est à l'échelle mondiale bien plus meurtrière que la première, entre 50 et 60 millions de morts, particulièrement des soviétiques, à la fois civils et militaires, la France a beaucoup moins de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est environ 600 000. Ce qui a marqué aussi les populations, plus pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la Première, où ce phénomène est encore relativement rare, ce sont les bombardements qui font beaucoup de victimes civiles et conduisent par exemple les autorités britanniques au début de la guerre à séparer parents et enfants, à envoyer les enfants à la campagne. Séparation douloureuse pour les mères et traumatisme. On a beaucoup, à partir de cette expérience-là, développé la psychologie de l'enfant, les traumatismes de la séparation, même en période difficile.
Alors quittons l'arrière, revenons sur le front. Moi j'aimerais savoir quelle a été la place des femmes sur les champs de bataille du XXe siècle.
Alors femmes sur les champs de bataille, là encore, des différences entre les conflits et des différences entre les États belligérants. Alors je vais faire un rapide panorama chronologique. La Grande Guerre. Les sociétés contemporaines de la Grande Guerre considèrent très majoritairement que les femmes ne peuvent être sur un champ de bataille. Combattre est une activité typiquement masculine, que les armées ne doivent être formées que de corps masculins. Seules les soignantes, ambulancières, infirmières, rares médecins ou Marie Curie et sa flotte de voitures radiologiques se rapprochent des zones de combat, mais jamais en première ligne. Le soin est cependant considéré comme une activité féminine et les infirmières ont été indispensables pour combler les lacunes des services de santé militaires. Là aussi, on a une source intéressante dont j'avais participé à un jury de mémoire au Canada. Une jeune chercheuse avait, à partir des carnets de guerre tenus par des infirmières canadiennes envoyées dans la région proche des fronts, y compris en Orient, étudier ces carnets de guerre pour essayer de comprendre l'expérience de ces infirmières. Et que disaient-elles, ces infirmières qui sortaient de leur formation à Toronto, que disaient-elles? Elles disaient deux choses, à la fois les exprimer un traumatisme, une horreur ressentie devant des blessures inimaginables, les nouveaux armements de la guerre et l'omniprésence de la mort. Donc traumatisme d'un côté, mais aussi une immense fierté d'avoir pu assumer des responsabilités bien au-delà de ce qui leur avait été enseigné. Donc c'était la grande aventure aussi de leur vie. Pendant la Première Guerre, pas de femmes, enfin très peu de femmes au combat, j'y reviendrai, et quasiment pas de corps auxiliaires féminins. Mais en même temps, parallèlement, la guerre est meurtrière et les armées ont besoin de toujours plus d'hommes en première ligne. Se pose alors la question, comment libérer les hommes des tâches auxiliaires de l'armée pour les envoyer au combat ? La France et l'Allemagne refusent de créer des corps auxiliaires féminins. C'est trop contraire à l'idéologie du temps, à la séparation des rôles masculins et féminins. Le Royaume-Uni, par contre, crée ses corps auxiliaires féminins à partir de 1917 et recrute plusieurs dizaines de milliers de mécaniciennes, cuisinières, spécialistes des transmissions, mais avec beaucoup de restrictions. Ce ne sont que de jeunes femmes célibataires, avec une surveillance de la moralité de ces recrues et beaucoup de critiques sociales à leur égard. Pendant la Grande Guerre, les seules femmes réellement combattantes sont des Serbes, sur lesquels on connaît encore peu de choses, et des Russes, notamment le bataillon féminin cosaque de Maria Botchkareva, dont les mémoires recueillies après-guerre outre-Atlantique ont été publiées en français en 2012 sous le titre « Yashka, journal d'une femme combattante ». Avançons dans le temps, la Seconde Guerre mondiale voit chez tous les belligérants la généralisation des corps auxiliaires féminins et la formation par l'URSS de combattantes de premier plan, des tireuses d'élite, ou on appelle parfois les snipers, telles Lyudmila Pavlichenko, qui a même fait un tour des USA après la guerre, acclamée, et aussi des pilotes de chasse, des femmes pilotes de chasse soviétiques.
Jour et nuit, ma pensée se portait vers les champs de bataille et je croyais entendre la plainte de mes frères blessés. Jusque dans le nord sauvage de la Sibérie, retentissait le choc des armées immenses. Les bruits les plus divers circulaient, bruits de victoire et de défaite, et le monde parlait à voix basse des torrents de sang répandus et de la masse énorme des mutilés retirés du front et refluant vers les plaines. Je brûlais du désir d'aller là-bas, moi aussi, d'être baptisé dans le feu et purifié dans la fournaise. J'éprouvais le besoin du sacrifice. Mon pays m'appelait et une force intérieure irrésistible m'entraînait. Il fallait seulement que mon mari s'éloignât pour quelques jours. Yashka, journal d'une femme combattante, 1923.
Si les femmes sont dans les troupes auxiliaires ou à l'arrière, on a quand même des femmes qui s'engagent dans le conflit, mais pas avec un uniforme, plutôt dans l'ombre, ce sont les résistantes. Sur ces résistantes, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, effectivement, et commençons par dire que, et on le voit de nouveau en Ukraine aujourd'hui, dès qu'il y a occupation d'un territoire par une armée étrangère, il y a résistance. Ce fut déjà le cas en Belgique occupée et dans le nord de la France occupée par les Allemands, les armées allemandes, pendant la Grande Guerre, avec la création de réseaux d'évasion et de réseaux de renseignement, avec à leur tête des femmes, puisque les hommes étaient en grande partie mobilisés. Pas en Belgique, mais en France, au début de la guerre. Le principal réseau de renseignement est celui de la Lilloise Louise de Bétigny, devenue une héroïne après la Grande Guerre. On l'a oubliée après la Seconde Guerre mondiale. On la retrouve aujourd'hui, mais après la Première Guerre mondiale, Louise de Bétigny est morte en détention après le démantèlement de son réseau à l'automne 2015, est une héroïne de guerre. Dans un pays où il n'y a pas encore de conscription avant 1916, les Britanniques utilisent l'exécution par les Allemands d'une autre héroïne, le 15 octobre 1915, exécution de l'infirmière Edith Cavell, relais à Bruxelles d'un réseau d'évasion. Utilisation de cette figure de la martyre, victime de la barbarie allemande, pour inciter les hommes britanniques à s'engager. Quand on parle de résistance, la résistance fait penser avant tout à la France, pendant la Seconde Guerre mondiale. les résistants actifs, mais les historiens peuvent débattre de la définition de qu'est-ce que résister, hein, qu'est-ce que résister activement, sont une minorité évaluée à environ 1% de la population. Les femmes sont une minorité dans la minorité, selon les départements, entre 10 et 20% de ceux qui ont demandé après-guerre une carte qu'on appelle une carte de combattant volontaire de la résistance. Mais cette part, 10 à 20%, est sans doute à réévaluer, car les enquêtes orales, une autre façon aussi de connaître la résistance des femmes, ont montré que les femmes sous-estimaient l'importance de leur rôle, comme nourrir, cacher, sauver des enfants juifs. S'il y eut des résistantes armées ou maniant l'explosif, on cite souvent le cas de Jeanne Boeck, les rôles dans la résistance restent sexués ou genrés. Pour les hommes, écrire, faire de la propagande, combattre les armes à la main, organiser des attentats ou organiser des mouvements, les grands mouvements de résistance. Pour les femmes, les rôles principaux sont taper à la machine, les tracts de propagande, cacher des résistants, soigner, nourrir, ce qui n'est pas simple en période de pénurie et avec les tickets de rationnement. La résistance se joue des stéréotypes de genre de l'époque. Les femmes sont aussi, autre rôle très important assumé par les femmes, agentes de liaison, hein, transportant tracts ou même parfois des armes dans un landau ou un cabas, hein, moins suspectes parce que femmes aux yeux des occupants, du moins dans un premier temps. Ces tâches sont non moins dangereuses, hein, et on en conduit de nombreuses femmes à l'arrestation, la torture, la déportation et la mort parfois. J'insiste un petit peu sur cette résistance parce que sur le moment, pour la résistance, il ne s'agit ni pour les hommes ni pour les femmes de transgresser les rôles de genre, mais d'une lutte commune contre l'occupant. Cependant, et ça j'insiste aussi beaucoup maintenant peut-être en vieillissant, l'histoire est toujours une discipline de la nuance. Cependant, donc, la camaraderie au combat entre hommes et femmes fait évoluer leurs relations et l'image réciproque des uns, des unes et des autres. Continuons un petit peu les conflits du XXe siècle. Je sais relativement peu de choses sur la guerre du Vietnam. Je citerai simplement le travail de François Guillemot, hein, qui est chercheur à l'Institut d'Asie orientale de Lyon et qui, depuis tous ses travaux, a le projet d'écrire une histoire complexe et nuancée de celles que le régime vietnamien, régime encore actuel, présente comme des héroïnes combattantes. Il a notamment écrit un livre en 2014, « Des Vietnamiennes dans la guerre civile ». Et il nuance cette image d'héroïne, il montre la difficulté aussi pour ces jeunes femmes de combattre dans la guérilla. Il y a plus de travaux sur les femmes dans la guerre d'Algérie, ceux de Jamila Amram d'abord, hein, qui, dès les années 90, a montré la participation des Moudjahidates, hein, au combat de libération nationale, mais aussi la volonté des autorités de la jeune Algérie indépendante, hein, de balayer les aspirations émancipatrices, hein, de ces femmes, après donc, l'indépendance, au nom de la tradition musulmane, hein, concernant les femmes. Et travaux aussi, dont on reparlera plus tard, ceux de Raphaël Branche et d'autres, hein, sur toutes les violences de la guerre.
Alors, pour prolonger en quelque sorte cette question de l'implication des femmes au moment des guerres, moi je m'interrogeais un peu sur la place des femmes espionnes qui commencent à émerger dans l'historiographie.
Oui, donc merci de cette question, mais je ne sais pas encore grand-chose des espionnes, même si ce sont des figures qui fascinent le public, hein, tous les stéréotypes de genre, d'ailleurs la femme fatale, la femme rusée, etc. Donc des figures qui fascinent le public et qui fascinent aussi l'histoire romancée. Donc il s'agit d'écrire une histoire romancée de ces femmes, notamment histoire romancée sur les agents doubles, hein, qui travaillent pour les deux camps. Je vais quand même tout de même faire une remarque ou deux sur ces espionnes. D'abord sur le terme. Le terme est péjoratif, il a une connotation négative, il est sulfureux. Alors qu'une espionne pourrait être qualifiée de résistante, terme à connotation très positive, et qu'elle a souvent, l'espionne, rendu de grands services par les informations qu'elle recueille. mais elle les recueille parfois par des méthodes qui sont considérées comme amorales à l'époque, hein, entrer en relation, y compris sexuelle, avec l'ennemi, hein, pour lui soutirer des informations. Cette remarque sur le terme espionne résistante a été faite récemment par Christophe Bettenfeld, qui vient de soutenir une thèse sur Marthe Richard, une des espionnes de la Grande Guerre. Marthe Richard est son aïeule, une de ses aïeules. Donc il fait cette remarque et par une enquête historique, il montre les réels services rendus par l'espionne Marthe Richard en 1916-1917.
Cette agitation pour que nous continuions à traiter en amis les citoyennes des pays ennemis, pour que, unis à elles, nous adjurions les hommes qui s'entrégorgent de se tendre la main, nous choque, nous révolte. Les Françaises se déclarent solidaires des Français qui soutiennent la guerre, qui, eux non plus, ne l'ont point voulu, mais qui l'ont si fièrement accepté pour sauver la France attaquée. Les désavouer, ce serait trahir eux et la patrie. Aujourd'hui, l'âme des Françaises les plus pacifistes se bat contre l'ennemi à côté de nos soldats. Et tant que durera la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi. Que nos collègues internationales se persuadent qu'il ne peut y avoir en ce moment aucune question internationale féminine. Il n'y a qu'une seule et immense question internationale tout court. Elle ne peut se résoudre que par la logique des choses, c'est-à-dire par la défaite d'une des forces engagées. Pour cette solution, hélas, aucune diplomatie ne peut rien. Il faut, le cœur déchiré, laisser agir les armes et couler le sang. Journal La Française, 19 décembre 1914.
Alors, je change de sujet, tout en continuant à m'intéresser à toutes les formes d'implication des femmes dans les guerres. Là, je souhaiterais revenir à l'arrière et m'intéresser aux féministes, et en particulier aux féministes du début du siècle. En quoi est-ce que les féministes, soit les grandes figures du mouvement ou alors le collectif féministe, comment est-ce que ces femmes ont-elles réagi à la Grande Guerre, enfin à la déclaration de guerre et à l'Union sacrée, et comment y ont-elles participé?
Alors vous venez de lire un texte issu du journal La Française de décembre 1914. Il y a une phrase terrible dans cet extrait: « Tant qu'il y aura la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi », sous-entendu, elles ne sont plus nos sœurs de combat en féminisme. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Il y avait, avant 14, un féminisme organisé à l'échelle internationale et nationale. Et dans les congrès internationaux, le dernier en date, en 14, c'est celui de Budapest en 1913, les militantes féministes et suffragistes affichaient leur sororité et leur attachement à la paix, soulignant même, comme dans La Française du 5 juillet 14, si les femmes votent, il n'y aura plus de guerre, ni aucun autre fléau social, véritable utopie suffragiste à l'époque. Or, que se passe-t-il à la déclaration de guerre? Les féministes françaises, allemandes, autrichiennes, britanniques suspendent à la fois leurs revendications, la principale d'entre elles à l'époque étant le droit de vote, au nom des devoirs patriotiques, et elles suspendent leur internationalisme d'avant-guerre. Cette phrase, hein, « Tant qu'il y aura la guerre, les femmes de l'ennemi seront aussi l'ennemi ». Partout, les militantes, à l'exception d'une très petite minorité qui reste fidèle aux idéaux pacifistes et allait participer ou se rallier au vœu d'un congrès pacifiste, celui de La Haye au printemps 1915, la majorité des militantes se révèle nationaliste et affirme leur patriotisme. Il faut aider le pays jusqu'à la victoire. J'ai même pu écrire qu'elles sont le fer de lance du patriotisme au féminin, y compris les anciennes suffragettes britanniques qui avaient beaucoup gêné les autorités britanniques avant 14. Alors que font les féministes? Bon, d'une part, elles mettent en place des œuvres de guerre pour aider la population civile, par exemple l'aide aux réfugiés du nord de la France et des Belges lors de l'invasion, participant ainsi au développement de la philanthropie féminine des femmes bourgeoises qui caractérise vraiment la période. Il y a une explosion des œuvres de guerre. Elles font aussi autre chose. Elles considèrent comme leur devoir de soutenir le moral des femmes au service de la patrie. les exhortant à ne pas fléchir, à ne pas pleurer, même lors du départ de l'époux ou du fils après la permission. Trahison ou non du féminisme, ça peut être une question. La réponse est là encore nuancée. Dans la continuité des actions d'avant-guerre, elle joue aussi un rôle pour défendre les travailleuses. Suspension des lois sociales, je disais tout à l'heure. Donc, elles défendent les travailleuses pour l'obtention de cantines, d'entreprises, de dispensaires et même de temps de repos. Elles valorisent également, et ça c'est très important, également et constamment, la mobilisation des femmes au service du pays, soulignant que cette mobilisation témoigne des compétences féminines et méritera obtention de nouveaux droits à l'issue du conflit. Elles mettent de nouveau en avant la question du droit de vote à partir de mi-17, fin 1917. Alors, la situation est différente durant la Seconde Guerre mondiale, où le féminisme est sans doute moins actif à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le choix n'est plus alors entre pacifisme et nationalisme, mais entre pacifisme à tout prix et antifascisme. La féministe dont j'ai écrit la biographie, Marguerite Thibert, 1886-1982, pacifiste dans l'entre-deux-guerres, fait le choix de l'antifascisme et aide les juives autrichiennes, allemandes et tchèques. D'autres militantes font le choix inverse, la paix à tout prix.
Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, mais surtout pendant la Première Guerre mondiale, c'est la capacité qu'ont les féministes en fait, à exercer une action de lobbying auprès du pouvoir pour défendre les travailleuses, pour soutenir les femmes dans les difficultés. On a vraiment le sentiment qu'elles ont eu un rôle très important à l'arrière dans la gestion du conflit.
Alors très important, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais un rôle réel, oui. Déjà avant 14, les autorités politiques considèrent le féminisme comme un mouvement respectable. Et très souvent, ces militantes, Cécile Brunjvic et d'autres, sont mariées à des hommes politiques, pas Cécile Brunjvic, son mari est un philosophe, mais sont mariées à des hommes politiques républicains. Et leur engagement patriotique convainc les autorités de les suivre sur d'autres plans. Par exemple, Cécile Brunjvic a créé, et ça a été maintenu après la guerre, sur le modèle britannique, Cécile Brunjvic avait visité le Royaume-Uni, elle crée l'école des surintendantes d'usine, nouveaux métiers, qui sont préludes des assistantes sociales de nos jours, nouveaux métiers qui doivent faire le pont entre monde ouvrier et patronat pour défendre le bien-être des femmes ouvrières.
Alors, sans transition, j'enchaîne, je change complètement de sujet. Et j'aimerais bien qu'on parle de la violence, puisque c'est une des thématiques évidemment majeures de la guerre et c'est une des thématiques que les programmes scolaires développent. Et rarement en parlant des femmes. Donc, lorsqu'on lit un peu l'historiographie de la guerre, on s'aperçoit que les hommes n'ont pas le monopole de la violence et que des femmes ont été impliquées dans les violences de guerre. Du coup, est-ce qu'on sait dans quelle proportion et puis à quelles tâches elles ont été employées ?
Alors, je dirais d'abord que pendant longtemps, l'histoire des femmes ne s'est intéressée qu'à la violence exercée sur les femmes, pas aux femmes impliquées dans des violences, parce que c'était des figures négatives pour une histoire des femmes à la recherche des grandes, de l'implication des femmes dans l'histoire. La proportion, non, on ne la sait pas. Je crois que la question de la violence exercée par les femmes sur d'autres femmes ou sur des hommes ou sur des enfants est surtout abordée pour l'étude de la Shoah. Notamment ces figures très négatives de gardiennes SS, des camps de concentration. Et plus largement aussi, d'autres travaux récents étudient la participation des femmes allemandes à la politique raciste nazie, à la colonisation des terres de l'Est, etc. La revue de Mnemosyne, Genre et Histoire, a fait un très beau numéro, le numéro 15, Le genre en guerre, où il y a beaucoup de choses sur cette participation des femmes allemandes à la violence de guerre et à la violence nazie. Certaines gardiennes de camp ont été jugées, comme Irma Greise, gardienne à Auschwitz, jugée dans le procès dit de Belsen au lendemain de la guerre, condamnée à mort et exécutée.
Alors, les recherches les plus récentes s'interrogent sur le vécu intime et sexuel des guerres. On a déjà dit tout à l'heure que la guerre pèse sur les couples, la séparation est difficile, elle compromet, au contraire, elle exalte les relations amoureuses. Elle joue aussi sur les pratiques sexuelles des soldats. Donc, quelles ont été les conséquences des guerres sur les sexualités et sur les conjugalités des populations en guerre ?
Ce qu'on peut appeler l'approche intime de la guerre fait en effet partie de l'historiographie récente. Les sexualités, l'amour, le sentiment amoureux, l'amour parental, la conjugalité, etc. Avec, d'une part, l'étude des politiques sexuelles des États. Les États en guerre souhaitent contrôler, voire organiser la sexualité des soldats pour éviter les maladies vénériennes, et donc l'affaiblissement du corps militaire, jusqu'à la création, ça a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, mais ça s'est généralisé dans d'autres conflits, ce qu'on appelle les bordels militaires de campagne. Les États en guerre veulent aussi contrôler la sexualité des épouses, notamment leur fidélité, qu'ils doivent garantir aux combattants pour maintenir le moral des combattants. Trahir la fidélité sexuelle à son mari pendant les guerres, c'est une haute trahison, notamment si la relation sexuelle se fait avec un homme du camp ennemi. Donc, étude des politiques sexuelles des États d'un côté, et d'autre part, une tentative de plus en plus fréquente d'approcher l'intime individuel, notamment par l'étude des correspondances. C'est le beau travail de Clémentine Vidal-Naquet sur les couples en guerre, et sa source principale, c'est une collection de correspondances. Approcher également les mutations de la vie de couple, mais là aussi, on est toujours dans la nuance. On ne peut pas dire que la guerre entraîne le délitement de l'amour, dans certains cas, mais dans d'autres cas, au contraire, elle renforce le sentiment amoureux, elle renforce le désir sexuel.
Ce sont des sujets passionnants, mais qui sont aussi énormes à étudier. Je pense en particulier à la question des sexualités, des bordels de guerre, toute la question de la prostitution sur le front et de la façon dont la prostitution a évolué pour finalement quelque part s'institutionnaliser, pour que l'armée contrôle mieux la sexualité des soldats. Et puis, d'un autre côté, je pense sur les politiques sexuelles, il y a toute la question aussi de la natalité, des problèmes liés à la natalité et à la peur que finalement les femmes ne jouent plus leur rôle reproductif et ne soient plus opérationnelles en quelque sorte pour faire beaucoup d'enfants.
Oui, bien sûr, notamment le natalisme est une des grandes données du XXe siècle, particulièrement en France, ou un pays qui avait été précocement malthusien. En même temps, toutes les guerres voient une chute de la natalité, puisqu'il y a séparation, au moins temporaire, des hommes et des femmes.
Alors restons sur les violences. Au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, on a pu assister à une grande opération de nettoyage ethnique qui s'est traduite pour les femmes par des milliers de viols de guerre. Ça a permis en quelque sorte de faire entrer la question des viols de guerre dans le champ de la recherche et de l'actualité d'ailleurs. Et c'est devenu un sujet très important. Qu'est-ce qu'on sait des violences spécifiques qui étaient subies par les femmes pendant les guerres, en tout cas pendant les deux guerres mondiales et aussi peut-être pendant les guerres coloniales ?
Effectivement, la guerre en ex-Yougoslavie a stimulé de nouvelles questions pour les historiens. C'est l'articulation passé-présent, l'expérience présente pousse à se poser des questions sur le passé. Les violences sexuelles et sexuées de guerre étaient très peu étudiées, très peu présentes dans l'historiographie de la guerre avant la guerre en ex-Yougoslavie. La question surgit avec la réalité de cette violence en ex-Yougoslavie, de ces viols massifs et de ce nettoyage ethnique. Et des historiens se penchent. Et que s'est-il passé pendant les conflits précédents ? Les viols de guerre semblent longtemps tus et longtemps non étudiés par les historiens, semblent caractériser tous les conflits, période de forte violence et période où la virilité est exacerbée. Violer, c'est s'emparer du corps de l'ennemi, c'est mettre sa semence dans le corps de l'ennemi pour, en quelque sorte, dénationaliser l'ennemi et aussi avoir des effets très très forts sur le moral de la population civile ennemie et des soldats du camp adverse. Les premiers travaux, l'ouvrage pionnier est sans doute celui de Stéphane Audouin-Rousseau en 1995, « L'enfant de l'ennemi ». Mais ce travail extrêmement intéressant n'essaie pas, parce que c'est impossible, quasi impossible, de mesurer l'ampleur des viols pendant l'invasion des troupes allemandes en Belgique et dans le nord de la France. Il étudie le débat autour de l'enfant du viol. Que faire des enfants du viol? Et ces débats est très très fort 9 mois après la période d'invasion et divise tous les corps sociaux. Elle divise l'Église, elle divise les hommes politiques, elle divise même les féministes, dont certaines féministes qualifient ces petits-enfants nés du viol de petits vipéraux dont il faut en quelque sorte se débarrasser. Quelle est la position de l'État français par rapport à ces enfants nés du viol? Ça a été de faciliter l'accouchement sous X et l'abandon. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'était les termes de ce débat. Y a-t-il une hérédité du sang ou l'éducation est-elle supérieure à l'hérédité du sang? Est-ce qu'un enfant conçu avec du sperme allemand sera un mauvais français? Ou est-ce qu'un enfant conçu avec du sperme allemand mais élevé à la française sera un bon français?
Oui, ce sont des débats intéressants, mais finalement très difficile de se pencher, à part à travers les témoignages, j'imagine, sur les traumatismes finalement vécus par ces femmes, en dehors même de la question des grossesses. Le traumatisme de la violence subie nous reste assez inconnu.
Tout à fait, c'est vraiment approcher l'intime de l'intime. Tout de même, on a aussi les archives judiciaires. Par exemple, dans cet ouvrage toujours de Stéphane Audouin-Rousseau, il s'appuie sur un procès, je ne sais plus si 1916 ou 1917, où une femme avait tué son enfant né du viol. Donc là, il y a l'expression de la femme un petit peu à travers les archives judiciaires. Il faut ajouter pour les guerres, enfin pour la guerre, première guerre, on ne sait pas trop, mais pour les guerres coloniales, que le viol est aussi un instrument de torture sur les résistantes arrêtées. Et on a notamment ce cas de Djamila Boupacha qui a été défendu par Gisèle Halimi et qui a reçu le soutien de féministes de l'époque comme Simone de Beauvoir ou aussi Françoise Sagan, qui a dénoncé ces tortures, ce viol, notamment d'une femme musulmane pour laquelle c'était particulièrement dramatique d'être violée par l'armée ou par un instrument mis dans le vagin par un soldat. Donc le viol comme instrument de torture, le viol pour démoraliser l'ennemi, le viol pour mettre la semence dans le corps de la nation adverse et le viol instrument de torture, ça fait beaucoup de...
Et puis pour détruire les familles aussi,
pour détruire les
familles, voit aussi au Congo, ce qu'on a vu au Congo, le fait que les familles explosent à cause du viol subi par les femmes qui deviennent impures.
Qui deviennent impures et qui effectivement sont rejetées par les familles. Donc il y a véritablement le traumatisme du viol et le traumatisme des conséquences du viol dans la famille et dans la société.
Oui, et face à ça, est-ce qu'on a des justices qui réagissent ou est-ce que ce sont des crimes qui restent globalement impunis?
En grande partie impunis, mais là on peut souligner que dès la Première Guerre mondiale, des féministes s'étaient rendus compte de cette importance des violences sexuées et sexuelles de guerre et avaient mis en place un comité de lutte contre ces violences, qui a essayé d'agir auprès de la Société des Nations, sans énormément de succès, mais la prise de conscience était là.
Donc une prise de conscience ancienne, mais finalement qui n'a pas entraîné une véritable mobilisation judiciaire, à long terme, je veux dire.
Non, à long terme, non. Et puis, demander réparation pour une femme, c'est aussi exposer le fait qu'elle a été violée. Bon, il y a aussi les viols massifs des Allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les soldats de l'armée soviétique. Et ce très beau texte qui a été édité en français il y a une dizaine d'années, je sais comment ça s'appelle, Journal d'une femme à Berlin, journal. C'est un texte extrêmement fort où une Allemande, lettrée, ancienne journaliste, raconte qu'elle a été violée et qu'elle se met finalement, pour échapper au viol quotidien par différents soldats, elle se met sous la protection d'un gradé de l'armée soviétique. Mais ce texte a été longtemps très mal reçu en Allemagne, ou tout de même, je crois, interdit, parce que c'était exposé. Dire qu'on a été violée, c'est dire qu'on est maintenant effectivement une femme impure ou que c'est très difficile à assumer dans les sociétés post-guerre où la morale est encore extrêmement traditionnelle avec virginité au mariage.
Oui, et puis il y a aussi cette idée qu'il faut se mettre sous la protection d'un autre homme pour ne pas être violé par des hommes hiérarchiquement moins gradés. Mmh. C'est des choses qu'on retrouve actuellement avec les migrantes qui se mettent sous la protection parfois de certains hommes plus importants pour éviter d'être violées par tout le monde au moment où elles voyagent pour passer les frontières. On en reparlera dans notre prochain épisode. Alors, on a vu que les femmes, finalement, lorsqu'on parle des conflits, elles sont un peu partout, finalement. Elles ont un rôle essentiel à l'arrière, elles ont un rôle dans le monde politique, elles ont un rôle dans les zones occupées, elles sont victimes, elles sont actrices. Ça pose la question de l'effet de la guerre sur la situation des femmes lorsque la guerre se termine. Pendant très longtemps, on a présenté le premier conflit mondial comme étant émancipateur et plus globalement, les guerres comme étant émancipatrices pour les femmes. Je crois que là-dessus, on est un peu en train de changer d'avis.
Oui, alors guerre émancipatrice ou non, ça a été effectivement un vaste débat historiographique, surtout pour la Grande Guerre. Et dans un article, j'avais parlé de trois âges historiographiques, une guerre émancipatrice, puis après guerre non émancipatrice, puis le temps de la nuance. Et je crois que c'est la meilleure posture, sans doute, de parler de temps de la nuance. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'histoire est de plus en plus une discipline de la nuance. Et c'est important de le faire comprendre aux élèves aussi dans un monde très clivé, où il y a du blanc et du noir. Donc je vais par exemple dérouler un peu précisément pour la France au lendemain de la Grande Guerre, puis après je généraliserai à d'autres conflits, parce que c'est seulement sur un exemple particulier qu'on peut montrer la nuance. Et effectivement, il y a des arguments qui plaident en faveur d'une guerre émancipatrice au lendemain de la Première Guerre mondiale en Europe. D'une part, le phénomène des garçons, donc cette nouvelle mode vestimentaire et capillaire qui libère le corps des femmes et qui se généralise y compris dans les milieux sociaux modestes, dans les villes, très peu dans les campagnes. Et puis le deuxième argument qui avait été mis en avant pour une guerre émancipatrice, c'était l'obtention du droit de vote par de nombreuses Européennes au lendemain de la guerre. En Autriche, en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni, aux USA, en Belgique partiellement. Mais en même temps, des femmes d'État non belligérants l'obtiennent également, et pas les Italiennes, ni les Françaises. Donc ça, c'est les arguments qui étaient mis en avant pour l'aspect émancipateur. À l'inverse, d'autres éléments nuancent très fortement ce caractère émancipateur de la guerre. D'abord celui-ci, je crois qu'il est important, on évoquait les monuments aux morts tout à l'heure. Il faut souligner que toutes les sociétés, même celles des pays vainqueurs, pas seulement des pays vaincus, sont marquées par le deuil et la dette des survivants envers ceux qui sont morts. Ces pays, et particulièrement la France, se couvrent de monuments aux morts et rappellent chaque année, lors de cérémonies publiques, le sacrifice des hommes. Les atmosphères de deuil ne sont jamais favorables à l'acquisition par les femmes de nouveaux droits. Par ailleurs, ces sociétés traumatisées aspirent collectivement à un retour à la normale, c'est-à-dire à la situation antérieure à la guerre. Comme le montre bien souvent dans mes conférences, je montrais l'affiche d'emprunt pour la reconstruction du pays, affiche de 1920, où l'on voit en premier plan une femme qui allaite un bébé avec une petite fille qui lit un livre, et au second plan, les hommes. Donc c'est vraiment les rôles sexués. À l'arrière-plan, les hommes sont soit bâtisseurs, ils reconstruisent le pays, soit paysans, soit ouvriers. Par ailleurs, et là aussi, il y a eu des travaux récents extrêmement intéressants pour la France, le retour des soldats dans les familles ne se passe pas toujours très bien. Traumatisés par la guerre, on a eu aussi des travaux sur les traumatismes de guerre chez les soldats, parfois mutilés ou même gueule cassée, qui est sans doute la pire des mutilations, le visage atteint. Les hommes sont pour certains amers, coléreux, dépressifs. Ils rendent la vie familiale difficile et malheureuse, comme l'ont écrit, et là c'est des nouvelles sources qui ont été consultées par Dominique Fouchard notamment, comme l'ont écrit certaines femmes en répondant à des enquêtes de journaux féminins. Et ce travail récent m'a rappelé ce que m'avait dit une vieille femme française interrogée au début des années 80. Elle avait dit cette phrase terrible, dont je n'avais peut-être pas compris toute l'ampleur à l'époque. Elle parlait de son mari. « Je leur ai donné un mouton, ils m'ont rendu un lion. » Et ma vie conjugale a été un enfer. Mais il faut de nouveau nuancer en sens inverse. Donc guerre émancipatrice, guerre non émancipatrice, je nuance de nouveau en sens inverse. Même si les sociétés veulent retourner à la situation d'avant-guerre, à ce qu'ils appellent la normale, hein, aux hommes certains secteurs, aux femmes certains secteurs, et notamment les femmes au foyer en grande partie, un retour à la situation d'avant-guerre est absolument impossible. Pour plusieurs raisons, les femmes qui ont assumé des responsabilités et des tâches nouvelles veulent désormais avoir droit au chapitre. Par ailleurs, la mort massive des hommes a laissé vide des postes de travail et offert des opportunités professionnelles aux femmes, même si la société les appelle idéologiquement à rentrer au foyer et à faire des enfants. Je le disais tout à l'heure, la guerre renforce une féminisation du secteur tertiaire qui allait s'accentuer tout au long du siècle. Enfin, là aussi, il faut nuancer selon les classes sociales. Si la guerre a un caractère émancipateur pour les femmes, c'est surtout pour les jeunes filles des classes bourgeoises, dont le destin a été transformé. Une jeune fille de la bourgeoisie avant 14, elle est destinée à devenir une épouse, une maîtresse de maison, une philanthrope, éventuellement. Ces jeunes filles de la bourgeoisie ont vécu plus libres, loin du contrôle paternel, par exemple Louise Weiss, hein, qui s'est engagée comme infirmière, ou d'autres. Elles ont commencé des études pour avoir un métier. Cette transformation des destins est vraie aussi des jeunes filles des années 20, dans les familles bourgeoises, hein, car les fortunes bourgeoises paraissent plus précaires après la guerre. Hein, des rentiers ont notamment perdu beaucoup. Et le meilleur exemple de ces enfants de la guerre, des familles bourgeoises qui ont eu un destin différent grâce, entre guillemets, à la guerre, c'est Simone de Beauvoir. Encore enfant pendant le conflit, elle est née en 1908, son père très traditionnel a connu des revers de fortune comme rentier. Il pousse ses deux filles à faire des études et à avoir un métier. Bon, vous le savez, elle allait devenir philosophe, professeure de philosophie, puis l'écrivaine et militante bien connue. Et en France, un des seuls aspects positifs, puisque les Françaises n'obtiennent pas le droit de vote, puisque les Françaises n'obtiennent pas une transformation du Code civil au lendemain de la Grande Guerre, elles obtiennent cependant ce qu'on a appelé le décret Bérard de 1924, l'alignement de l'enseignement secondaire féminin sur l'enseignement secondaire masculin, donc le fait que les lycées de jeunes filles doivent les conduire jusqu'au baccalauréat et donc permettre de faire des études supérieures et d'avoir des métiers qualifiés. Donc vous voyez, c'est un jeu de balancier. Il y a des aspects émancipateurs, des aspects non émancipateurs, et puis il faut le confronter à la réalité et aux différences sociales.
Il y a aussi la question des stéréotypes, parce qu'il y a un désir de revenir à des stéréotypes féminins, mais qui, dans certains milieux, par exemple chez les ouvriers, n'existent pas vraiment. La femme est à l'usine, bien avant la guerre, où elle travaille à domicile avec des horaires épouvantables, et on n'est pas du tout sur un modèle, on va dire, de femme au foyer et d'homme qui va travailler.
Tout à fait. Et je crois que pour les élèves, c'est très important toujours de leur apprendre à distinguer entre l'idéologie collective que l'on trouve dans les discours politiques, dans la presse, et la réalité sociale qui est toujours beaucoup plus nuancée. Et cet idéal de femme au foyer qui existait dans tous les pays d'Europe avant 14, hein, ne fonctionnait pas dans les milieux populaires où on avait besoin du travail des femmes. Alors, il fonctionnait un peu plus au Royaume-Uni, puisque je disais tout à l'heure que dans les milieux populaires, on travaille jusqu'au mariage, mais après, très souvent, c'est le modèle de ce qu'on appelle le mari gagne-pain de la famille. D'autre part, je reviens sur le fait qu'un des arguments de l'émancipation, c'était le droit de vote acquis par de nombreuses Européennes. Il faut préciser un petit peu finalement pourquoi ces Européennes obtiennent le droit de vote. On dit souvent « récompense pour leur participation au combat patriotique pendant la guerre ». C'est plus compliqué que ça en général. Par exemple, les Allemandes, il faut souligner que l'on donne aussi le droit de vote aux Allemandes fin 1918, dans un contexte révolutionnaire où on considère qu'elles pourront faire un peu contrepoids à ce mouvement révolutionnaire parce qu'elles sont plus traditionnelles, etc. D'autre part, au Royaume-Uni ou aux USA, où elles obtiennent aussi le droit de vote en 1918 ou bien en 1920, c'est aussi le souvenir des mobilisations d'avant-guerre qui poussent les autorités à ne pas faire ressurgir ce conflit d'avant 14. Prenons maintenant l'obtention du droit de vote par les Françaises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, on dit souvent, De Gaulle octroie le droit de vote aux femmes en récompense de leur participation à la résistance. De nouveau, c'est plus compliqué que cela. D'une part, cet argument de participation à la résistance est effectivement évoqué dans les débats de l'Assemblée consultative d'Alger. Sur les femmes doivent-elles électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est un argument qui est avancé par certains, mais d'autres avancent des arguments beaucoup plus traditionnels qui sont les femmes, par leur qualité spécifique de femmes, apporteront dans la vie de la cité la valeur d'harmonie, modération, etc., etc. Et puis, il faut souligner aussi acquisition du droit de vote par les Françaises, donc ordonnance du 21 avril 1944, et premier vote municipal de 1945, que cette nouveauté, qui est une acquisition démocratique, qui instaure en France le suffrage universel, et c'est là aussi faire comprendre aux élèves l'importance des termes. Est-ce que c'est l'acquisition par les femmes du droit de vote ou est-ce que c'est l'instauration en France du suffrage universel ? On peut dire les deux, mais ça n'a pas exactement la même signification. Instauration du suffrage universel, c'est plus fort. Il n'y en a pas avant, alors que pendant longtemps, on a dit instauration du suffrage universel en 1848. Cette acquisition du droit de vote ne s'accompagne pas de modification du code civil, qui était de nouveau demandé par les féministes de l'époque. Et les années de libération, il y a eu aussi des recherches là-dessus. Ce sont les années où il y a la plus forte répression de l'avortement en France. Parce que qu'est-ce qu'on attend toujours des femmes après les conflits ? C'est qu'elles fassent des enfants pour repeupler le pays. Là aussi, c'est un débat. Est-ce qu'il y a une libération des femmes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Bon, c'est vrai qu'il y a, dans la nouvelle constitution de 1946, le refus de la discrimination par sexe. Donc ça, c'est important, mais en même temps. Donc, pas de modification du code civil. Et surtout, moi, je mets souvent en parallèle l'acquisition du droit de vote, enfin, des droits politiques. C'est vote et éligibilité par les Françaises et phénomène des femmes tondues. Ça me paraît intéressant de les étudier, de les regarder parallèlement. Que veut dire le phénomène des femmes tondues ? Bien étudié par Fabrice Virgili, qui a parlé dans un autre podcast. Cela veut dire que les femmes ne sont pas considérées comme des citoyens comme les autres, puisqu'on leur applique un châtiment sexué de la collaboration. Pas le châtiment d'une collaboration sexuelle, comme on l'a dit longtemps, donc coucher avec un Allemand, avoir des relations sexuelles avec un Allemand, mais on leur applique pour toute forme de collaboration un châtiment sexué. Donc avoir un procès, être condamné, mais aussi avoir publiquement les cheveux coupés. Donc les Françaises ne sont pas considérées, à mes yeux, comme des citoyens comme les autres, au lendemain de la libération.
Alors justement, puisqu'on parle de la façon dont la guerre affecte les hommes et leur comportement, quel bilan on peut faire des conséquences des guerres sur la construction des masculinités au XXe siècle ?
Alors je dirais d'abord que j'aime aussi souligner que l'histoire des femmes a engendré l'histoire des hommes comme individus sexués, a engendré l'histoire des masculinités. Histoire des masculinités pendant les guerres, tous les États en guerre mobilisent la virilité, associé au courage, au fait de défendre son pays, mais aussi de défendre les siens, ceux qui sont considérés comme plus faibles, les femmes, les enfants, les vieillards. Dans mes conférences aussi du centenaire, j'utilisais une très belle carte postale de 1914, où on voit une France entourée de bleu, blanc, rouge. La légende, c'est « Français, voilà ce que tu défends », donc tu défends ton pays, la France, bleu, blanc, rouge. Et il y avait une église d'un village, tu défends ta petite patrie, le village, et il y avait un berceau avec la mère devant le berceau et les grands-parents, les vieillards. Donc voilà ce que tu défends, Français, tu défends ton pays, tu défends ta petite patrie, tu défends les femmes, les enfants et les vieillards. Et ça, c'est l'attribut des hommes. Ta virilité est nécessaire au pays. Mais en même temps, et ça a été beaucoup étudié aussi dans les 20 dernières années, la virilité est véritablement mise à l'épreuve par la Grande Guerre. D'une part parce que les corps sont extrêmement malmenés par les nouveaux armements de la guerre. Ils sont blessés, ils sont mutilés. Et on a aussi beaucoup de sources de photographies de corps de soldats blessés. Mais ce n'est pas seulement les corps qui sont malmenées. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler les identités viriles, les identités personnelles. Ces identités sont mises à mal par la découverte en soi de la peur, hein, face à la mort, face au combat, face aux nouveaux armements. Ces hommes qui participent au combat de la Grande Guerre sont très souvent traumatisés, et les médecins de l'époque ont été très étonnés de voir une nouvelle maladie surgir chez les hommes, qu'ils ont souvent considéré comme des simulateurs. C'était, alors, après on l'a appelé l'obusite, en anglais le shell shock, le choc de l'obus. Et les symptômes de l'obusite ressemblent, disent les médecins contemporains, à l'hystérie féminine. Donc on voit des hommes atteints d'une maladie qui est considérée comme féminine. Donc il y a véritablement une identité virile mise à mal. Pendant la Deuxième Guerre mondiale en France aussi, on peut dire que les hommes ont failli, hein, puisque c'est la défaite de 1940. Ils n'ont pas su protéger leur pays, leur petite patrie, les femmes, les enfants, les vieillards, hein, contre l'invasion nazie. Et Fabrice Virgili, on parlait du phénomène des tontes tout à l'heure. Je pense que son hypothèse est extrêmement juste. Il considère qu'on peut expliquer le phénomène des tontes à la fois comme la nécessité de réassurer l'identité nationale mise à mal par la défaite de 1940, mais aussi de réassurer l'identité virile. Les hommes reprennent le pouvoir sur le corps des femmes en le mutilant par la coupe des cheveux.
Oh, ma Georgette, je devrais te parler d'amour, et je te parle de ça, un champ de cadavres. Ah, dans ces moments-là, titubant, ivre, abandonné, frissonnant, naufragé, je tends les bras vers toi, je t'implore, je te supplie. Je suis un homme, pourtant, et des fois je grince des dents pour ne pas pleurer. Lettre de Maurice Dran, fils de commerçant, 23 ans, en 1914, à sa fiancée Georgette, connue lors d'une permission. Lettre écrite le 17 mai 1917.
Oui, je trouve assez surprenant finalement le fait que les traumatismes vécus par les hommes durant ces grands conflits mondiaux et plus généralement durant les guerres du XXe siècle sont un peu passés sous silence. Et ce qu'on en retient, c'est que la guerre fait l'homme, quoi. La guerre, c'est la virilité et c'est pas du tout la guerre fait le traumatisme. Ça reste quand même une identité de genre qui est très forte.
Oui, enfin, je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis qu'on reconnaît l'existence de réels traumatismes de guerre à partir de travaux sur les soldats rentrés de la guerre du Vietnam. Je pense que l'approche de la difficulté de faire la guerre pour les hommes commence quand même à entrer dans l'esprit de nos contemporains. Même si, alors, on l'a vu pendant toutes les guerres, très souvent, les jeunes hommes partaient au combat comme à l'aventure. Ça allait être une grande aventure et ils allaient montrer qu'ils étaient des hommes. Mais les hommes déjà plus âgés, notamment les paysans pendant la Grande Guerre en France, partaient résignés. Il fallait faire son devoir, mais on savait que la guerre n'était pas une belle chose.
Alors pour terminer sur cette partie scientifique, on ne parle jamais, là encore c'est une espèce d'angle mort de la réflexion sur la guerre, on ne parle jamais de la participation des femmes à la diplomatie. Est-ce que cette participation existe ?
Alors sur ce sujet, on sait encore très peu de choses, hein. Il y a très peu de travaux et les femmes sont entrées tardivement dans les métiers diplomatiques, donc femmes ambassadrices, etc. Enfin, ça commence dans l'entre-deux-guerres, hein, mais pas pour la France. Alors je ferai tout de même trois remarques, hein, sur cette diplomatie entendue au sens large. Première remarque, je pose l'hypothèse qu'il faudrait sans doute vérifier par des recherches que les féministes, on en parlait tout à l'heure, hein, ont joué ce que j'appelle un rôle de fourmi diplomatique pendant la Grande Guerre, en cultivant les liens qui avaient été forgés dès avant 14 avec leurs consœurs étrangères des pays neutres ou non encore engagés, pour que ces consœurs étrangères fassent basculer leur pays dans le bon camp. Par exemple, l'Italie du côté de l'Entente au printemps 1915. Ça, c'est la première remarque. Donc, ce travail de fourmi diplomatique. Deuxième remarque, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, ces féministes se sont mobilisées contre les violences faites aux femmes, hein, avec la création, et là je peux vous donner le nom, hein, d'un comité de protection des femmes dans la législation internationale, comité présidé par une Américaine, qui œuvre sans énormément de succès, et ce comité est encore peu étudié également, pour obtenir une modification de ce qu'on appelle les lois de la guerre, hein, et une protection des civils. Et puis, troisième remarque, toujours à propos de la Grande Guerre, des militantes suffragistes des pays alliés, on ne veut pas des Allemandes en 1919 à Paris, se réunissent à Paris au printemps 19, au moment de la conférence de la paix, hein, et elles font du lobbying auprès des délégués de cette conférence de la paix pour obtenir, et là avec succès, l'inscription dans le pacte de la Société des Nations, hein, organisation née des traités de paix, hein, inscription du principe d'égal accès des hommes et des femmes à toutes les fonctions de ces nouvelles organisations internationales. C'est un succès féministe d'une forme de diplomatie non conventionnelle, hein, du lobbying auprès de délégués.
Eh bien, merci beaucoup Françoise pour toutes ces précisions et ce bilan aussi de l'historiographie des 40 dernières années qui va permettre aux enseignants d'enrichir leurs cours. Et justement, c'est une habile transition pour passer à la partie pédagogique. Comme vous le savez, notre objectif est d'amener les enseignants et les enseignantes à replacer les femmes dans toutes les thématiques qui sont au programme. De ce point de vue, la question des guerres est symbolique. Dans les programmes, la guerre est généralement abordée du point de vue des nations, des batailles, des moyens financiers et militaires, des espaces de conflit, plus récemment, du point de vue de la violence. Une histoire sociale de la guerre a émergé avec l'opposition front-arrière, militaire-civil et la notion d'économie de guerre. On a vu apparaître les munitionnettes et à cette occasion, la question de l'émancipation des femmes par la guerre s'est posée. Mais on est loin d'une histoire mixte des guerres du XXe siècle et les programmes sont loin d'intégrer les avancées scientifiques sur ces questions. Il arrive même qu'ils reculent. Clémentine, peux-tu nous faire un petit rappel des programmes actuels sur ces questions ?
Bien sûr. Actuellement, les guerres du XXe siècle sont principalement étudiées en classe de 3e pour le collège et au lycée en classe de 1ère et terminale. Dans le programme de 3e, tout le premier thème parle de la Seconde Guerre mondiale, puis on avance rapidement sur la guerre froide pour finir sur la construction de la France de la 5e République, où là, on va avoir un petit passage où on nous dit qu'il faut parler des femmes. Rapidement, j'y reviendrai. On retrouve les conflits du XXe siècle au lycée en première. Programme de première, je rappelle, qui court de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale et la création de la SDN. Ce qui donc pose un énorme problème, puisque on est trop peu nombreux, très peu nombreux. Je ne sais même pas s'il y a un collègue ou une collègue qui parvient à aller jusqu'à ce 4e thème d'histoire sur la Première Guerre mondiale. Donc, on tend à avoir une disparition de l'enseignement de la Première Guerre mondiale au lycée. Puis, en terminale, on reprend le programme avec l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, on va parler ensuite de la guerre froide. Et puis, on va pouvoir parler un petit peu plus longuement des conflits coloniaux et même des nouvelles conflictualités de cette deuxième moitié du XXe siècle, avec toujours la même problématique que l'année de terminale est considérablement raccourcie du fait de la réforme. Donc, les collègues avancent plus ou moins loin dans le XXe siècle, selon leurs possibilités. Dans tous les cas, ces programmes-là n'intègrent pas vraiment les femmes comme on le souhaiterait, dans le sens où on va avoir parfois des points de passage et d'ouverture, d'autres fois des chapitres à part, encore une fois, hein, le côté, on a parlé de la France, de la 5e République, on n'oublie pas qu'on va mettre un peu l'émancipation des femmes dans un dernier chapitre, histoire de faire plaisir à tout le monde. Or, on a déjà vu dans nos derniers épisodes que c'est pas trop ça qu'il faut faire.
Françoise Thébault, vous venez de faire paraître avec Yannick Ripa un dossier sur la condition des femmes de 1789 à nos jours, à la documentation photographique. Un dossier qui, me semble-t-il, propose aux enseignants et aux enseignantes non seulement des documents exceptionnels, mais surtout une réflexion problématisée de chaque dossier, qui leur permet de comprendre les enjeux que la recherche la plus récente a fait émerger. Et vous soulevez dans ce numéro de la Doc Photo les enjeux de la transmission scolaire de l'histoire des femmes et du genre. Vous êtes donc la personne idéale pour nous aider à réfléchir à la transposition didactique concernant les guerres. Du coup, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est déjà, première question, comment vous expliquez la distance qui existe entre les programmes scolaires et puis toute la recherche sur les guerres du XXe siècle, telle que vous venez de nous la présenter et qui est passionnante.
Oui, en fait, C'est aussi un peu le cas de d'autres domaines de spécialité historique, mais quand même, j'ai toujours eu l'impression, notamment dans les 20 ou 30 premières années de l'histoire des femmes, que le passage des recherches scientifiques universitaires à la transmission scolaire était plus difficile que pour d'autres domaines. Par exemple, il me semble que ça a été très rapide pour la démographie historique. Grande actualité historiographique des années 60-70 et qui a été transmise dans l'enseignement relativement rapidement. Bon, cette période très longue pour transmettre de l'histoire des femmes vient aussi de ce que je disais tout à l'heure, qui était la méfiance de certains universitaires, donc des inspecteurs aussi, pour ce champ de recherche qui est considéré comme un peu sulfureux, trop militant, etc. Bon, d'autre part, vous l'avez dit, les programmes n'arrêtent pas de changer et c'est un travail à répéter continuellement, d'essayer de, d'insérer l'histoire des femmes dans l'histoire générale et de transmettre le plus possible une histoire mixte.
Oui, finalement, comme on l'a déjà dit de multiples fois dans ce podcast, les enseignants ont un vrai travail à faire parce que les programmes laissent de la place finalement. Ils sont suffisamment allusifs sur certains points pour laisser les enseignants eux-mêmes s'emparer de l'histoire des femmes et du genre et des travaux scientifiques les plus récents et les placer dans leur cours. Cependant, on peut se poser des questions. Alors, on ne va pas se poser la question des causes. Pourquoi est-ce qu'on va enseigner les guerres finalement toujours de la même façon et laisser si peu de place aux expériences féminines? Mais quelles conséquences ça a, selon vous, sur les élèves de ne pas transmettre cette expérience féminine et cette, finalement, une vision de la guerre qui serait beaucoup plus globale?
On l'a souvent dit, à Mnemosyne, à Clio et entre nous, pour moi, l'histoire des femmes et du genre, c'est un domaine scientifique et c'est important qu'elle soit reconnue comme telle, mais elle doit vraiment entrer dans la culture commune et je considère que parmi les champs de l'histoire, elle a un rôle citoyen particulier qui est de contribuer à la mixité des sociétés, à l'égalité, à faire réfléchir les élèves sur leurs identités, sur le vivre ensemble entre filles, garçons, hommes, femmes. Donc il y a une fonction citoyenne, à mes yeux, de l'histoire des femmes et du genre.
Oui, il me semble aussi que sur la construction des identités masculines et féminines, savoir que des femmes se sont battues ou qu'elles ont été espionnes ou savoir qu'elles ont subi des viols de guerre ou savoir à quel point leur activité a été indispensable au fait de gagner la guerre ou pas, ça permet de construire autrement la vision du passé et finalement de se construire aussi autrement comme garçon ou fille dans la société.
Oui, tout à fait, tout à fait. Comment faire? Ben, c'est les enseignants, c'est à eux de trouver les moyens. Et effectivement, l'association Mnemosyne fait beaucoup pour cela. Le plus possible, enseigner une histoire mixte. C'est-à-dire que les femmes sont aussi des actrices de l'histoire. Et ben, ça, c'est très important. Et ça avait été fait dans le manuel Mnemosyne, La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte. Donc, le plus possible, enseigner une histoire mixte. Peut-être le plus possible aussi, faire réfléchir sur des exemples, parce que l'exemple permet d'aller dans la nuance, et l'histoire, je le répète, est une discipline de la nuance, et c'est très formateur de comprendre la complexité des événements, des effets d'un événement sur les hommes, sur les femmes.
Et d'autant plus que les sources existent et sont très nombreuses, et donc c'est assez facile de s'en emparer pour faire travailler les élèves sur des exemples.
Et peut-être un troisième conseil, si je peux me permettre, mais c'est à vous de le dire, de faire travailler les élèves sur les égotextes, les archives de soi, parce que là, on peut approcher, et je pense que les élèves sont sensibles aussi à une approche beaucoup plus individualisée de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas abstrait. Les événements du passé ont eu des effets sur des individus, sur des familles, sur des collectivités, et ça, c'est très important à partager.
Oui, finalement, plus on va quitter les chiffres, et puis les dates des batailles, et pour rentrer dans le vécu des hommes et des femmes, plus on va permettre aux élèves de s'emparer de cette histoire et de s'y intéresser aussi, que
bien
ça
sûr
devienne moins abstrait.
Tout à fait, oui.
Alors Clémentine, quelles propositions pourrait-on faire aux enseignants pour modifier leurs cours?
Alors l'idée que j'ai, et que je ne suis pas la seule à avoir, puisque je l'ai déjà testée avec plusieurs collègues en collège, c'est de partir du principe, comme ce qu'on dit depuis le début de notre podcast, qu'il ne faut pas mettre les femmes à part, mais les intégrer hein, vraiment dans un tout. Donc là, l'idée, en fait, c'est de proposer en classe de troisième, mais c'est à mon avis tout à fait transposable en classe de première, si on a le temps d'aller jusque-là, c'est de proposer donc un travail qui va permettre d'étudier en même temps les conditions de vie des soldats et les conditions de vie des civils, et à l'intérieur de ces thématiques-là, insérer des femmes. Et Françoise nous a bien parlé justement de la multitude de documents qu'on peut mobiliser à ce propos-là, notamment les documents d'égo-histoire, qui pourraient être intéressants. Très concrètement, ce que j'ai proposé à mes élèves par rapport à cette logique-là, c'est de réaliser un article de journal. J'étais partie sur un article du Canard Enchaîné, puisque ça permet d'être un peu plus critique et de pouvoir questionner un petit peu les différentes tonalités journalistiques, puis aussi la question de la censure, hein, puisqu'on trouve assez facilement des exemplaires censurés du Canard Enchaîné, donc c'est assez bon exemple. Et je demandais aux élèves, je les mettais dans l'idée qu'ils étaient des journalistes du Canard Enchaîné en 1917 et qu'ils devaient réaliser un article sur les conditions de vie à la fois militaires et civiles en montrant un peu le ras-le-bol de la guerre qu'il y a à cette période critique-là de la Première Guerre mondiale. Pour ça, les élèves étaient un peu autonomes en fait et ils devaient me dire ce qu'il ferait en tant que journaliste. Certains élèves se disent « bon, bah, il faut qu'on aille au front interviewer des soldats, prendre des photos ». D'autres élèves sont un peu frileux à l'idée d'aller au front, donc ils disent « ah bah non, on va peut-être aller d'abord interroger les femmes de soldats, enfin les femmes de poilus qui les ont vues, etc. » Et à chaque fois, en fait, quand un élève me dit « ah bah finalement, on ferait bien ça », un peu comme du jeu de rôle au final, eh bien je leur donne des documents en leur disant « bon, bah voilà, t'es allé voir une telle ou un tel, t'es allé à tel endroit et tu trouves ça, tu trouves telle photo ». Quand ils vont au front, oh ben au passage, il y a des poilus qui te donnent des lettres pour contourner la censure, si tu veux bien remettre ça à sa femme. Ce qui me permet en fait de donner à des élèves des lettres de poilus, des photographies qu'on a du champ de bataille, mais aussi du coup des mentions de femmes en fait. Et là, on peut mettre plein de figures féminines. Et elles sont intégrées de manière très naturelle et pas ajoutées parce qu'il faut mettre des femmes là. Et ce qui permet en plus de ne pas juste parler de marraine de guerre, de ne pas juste parler d'infirmière ou d'épouse qui fabrique des obus au fond.
Oui, parce qu'on peut même imaginer, du coup, les faire parler d'une femme sniper ou d'une femme espionne. Enfin, finalement, ces documents, ils peuvent évoquer des femmes dans des rôles très différents.
C'est ça. Et bon, ça demande effectivement une petite recherche pour trouver ces documents-là. Ça tombe bien, Françoise qui nous a donné pas mal de pistes. Puis il y a bien sûr la documentation photographique ou encore l'ouvrage « La place des femmes » de Mnemosyne qui vous aidera, on l'espère en tout cas, à trouver les documents qu'il vous faut pour un type de séance comme celle-ci.
Merci beaucoup Clémentine pour ces exemples.
Françoise Thébault, merci beaucoup pour votre présence dans ce podcast et vos recommandations pédagogiques et votre vision de très long terme, c'est très précieux pour les enseignants.
Merci à vous et merci à Mnemosyne.
Merci beaucoup Françoise Thébault et Cécile Béguin pour cette riche conversation. Vous trouverez, comme d'habitude, une bibliographie détaillée et des documents qui vous donneront des pistes et des recommandations pour insérer les femmes et le genre dans vos cours. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mnemosyne pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre, avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Noémie Gmur et à la lecture des textes Clémentine Letellier. Merci au studio La Poudre, situé à la Cité Audacieuse, de nous permettre d'utiliser leurs locaux. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à adhérer à l'association via notre portail Hello Asso. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site. À bientôt !